It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Football. Hello messieurs, c'est la conscience, c'est Maxime Marchand qui vous parle encore. J'ai trouvé l'invité de notre prochain épisode. Alors il s'agit de Louis Noisette, il est médecin à temps partiel au LOSC à Lille. Il est aussi médecin de l'équipe cycliste Total Energy. Et en fait, il a longtemps été le médecin du RC Lens, donc c'est rigolo, les deux clubs rivaux, à temps plein pendant 5 ans, notamment sous Antoine Comboiré. J'ai pensé à lui parce qu'on tourne autour du sujet médical et de la figure du docteur depuis pas mal de temps, je trouve. Et quand on a évoqué notamment la psychologie avec Myriam Selmy ou encore la performance lors du dernier épisode avec Mathieu Lacombe de Parme. Et du coup, c'est pour ça que je lui ai donné rendez-vous au studio. Je compte sur vous pour le cuisiner, comme vous savez si bien le faire, autour de la question de la part du médical dans la réussite d'une saison. Je me dis que ça peut être un bon moyen de commencer à l'interroger et une bonne thématique pour cet épisode autour de la santé, la médecine et du football. Bon enregistrement, messieurs.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Alternative Football. Et je suis comme d'habitude avec mon binôme.
Ben oui, exact.
Monsieur Cissé.
Ça va Mathieu?
Ça va très bien et toi?
Super.
Passé un bon week-end?
Ouais, et toi?
Ça a été.
Bon,
hier, parfait. On va parler d'un sujet aujourd'hui avec notre invité, Louis Noisette. Donc tu es médecin du sport, tu as travaillé au RC Lens, tu collabores avec le LOSC, avec l'équipe cycliste Total Energy, si je ne dis pas de bêtises. Et tu nous fais le plaisir d'être là aujourd'hui pour discuter de ton métier et de manière générale de la médecine dans le foot.
Ouais, bonjour Mathieu, bonjour Edouard. Ouais, c'est ça, on va essayer.
Tu es né à Valenciennes.
Et je suis né à Valenciennes. Voilà. Je suis né à Lille, mais j'ai grandi
Donc le nord,
plus près de Valenciennes. Ouais.
C'est ça, tu vois, effectivement, tu es lié au nord, pas seulement dans tes expériences professionnelles, mais également
de cœur.
Exactement. Alors, de quoi on va parler? Je dis, on va parler de médecine, mais on a la tradition chez Alternative Football, Louis, de commencer par une problématique relativement travaillée. Hein, Edouard et moi passons des heures à chercher des questions.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars?
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Plus sérieusement, la question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est quelle est la part du médecin dans la réussite d'une saison? On ouvre comme ça et on va spécifier.
De la cellule médicale, parce que tu ne bosses pas tout seul, hein, d'accord?
Ouais,
c'est un peu ça, parce que
ouais,
souvent on parle du financier, on parle des joueurs, mais bon, à un moment donné, si les joueurs ils sont cassés ou ils sont blessés, ils ne servent pas à grand-chose. Donc, grosse pression pour vous.
Ouais, effectivement, le médecin et tous ceux qui collaborent avec le médecin, donc kiné, ostéo, podo. Bon, déjà, d'une, le rôle du médecin, c'est un peu de coordonner tout ça. C'est de plus en plus, c'est l'interlocuteur numéro un du coach, du directeur sportif, du président, s'il le faut. Dans le foot, c'est plus ça va, plus c'est un peu construit dans ce sens-là, quoi, où il faut pas 50 interlocuteurs, il en faut un, si possible, dans les grands clubs, il y a un médecin référent, il peut y avoir d'autres médecins qui viennent un peu soulager le médecin référent, mais l'idée, c'est d'avoir, voilà, un seul interlocuteur. On collabore aussi beaucoup, je l'ai pas cité avant, mais avec les préparateurs physiques. Et, je dirais que même, aussi, plus ça va, on a des cellules performance dont dépendent un petit peu les staffs médicaux. Et c'est toute cette collaboration-là, cette tambouille-là qui fait qu'on essaye d'avoir le moins de joueurs blessés. Quand ils le sont, de les remettre le plus vite possible et le mieux possible. Donc voilà, c'est un peu ça le job au quotidien.
Alors on va rentrer dans le détail de tout ça, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Mais j'avais une première interrogation. Comment on devient médecin pour une équipe de football professionnel? J'imagine qu'on fait médecine.
Non, c'est mieux. Garagiste. Toi, t'as un BEP garagiste.
C'est ça, j'ai un DUG d'anglais.
Et puis tu t'es dit, moi, je vais. Non, mais quel est le. Est-ce que c'était une volonté de ta part? Et en général, tes confrères médecins dans les clubs, c'est aussi parce qu'ils sont soit fans de foot, soit qu'ils ont un intérêt particulier pour le sport, ou il y a des formations spécifiques? Si tu peux nous en dire un peu plus sur comment on y vient.
Alors ouais, effectivement, la base, c'est d'aimer le sport, d'aimer le foot, sans trop l'aimer, sans être trop fan, je pense. Parce que c'est aussi plein de contraintes, quoi, comme tous les gens qui bossent dans ce domaine-là. Sur le plan du cursus, évidemment, faut faire médecine. Les formations complémentaires, donc il y a des capacités, des diplômes après le cursus de base en médecine. D'accord. Du sport. Alors souvent, c'est soit des gens qui ont fait médecine générale ou soit les médecines physiques, donc c'est la rééducation. C'est un peu les D'accord. deux grands vecteurs pour arriver à la médecine du sport. Et puis après, on complète ça par souvent des formations d'échographie. De plus en plus, maintenant, on fait du débrouillage écho dans les clubs. Les clubs sont équipés de machines d'écho. Pourquoi pas un peu d'ostéopathie, de thérapie manuelle. Voilà, puis tout un tas de DU annexes. Mais bon, la base, c'est médecine G ou médecine physique. Un diplôme de médecine du sport, c'est le cursus de base. Et après, comment ça se fait? Alors, parfois, les clubs passent des annonces, etc. Comme on peut le voir puis, voilà, sur LinkedIn, des choses comme ça. Ouais. Et même d'ailleurs, je trouve que depuis quelques temps, ils ont un peu de mal à recruter. Ça peut paraître étonnant parce qu'on se dit, ouais, il y a certains clubs. Enfin, je pense, je sais plus, sans les citer, Angers, qui recrutaient depuis un moment avec des difficultés pour trouver. Alors, ils cherchent des médecins temps plein. Des fois, les médecins veulent pas forcément s'engager
temps plein. En temps plein ou à mi-temps?
Ça dépend. Il y a toutes les formules. Moi, j'ai été en temps plein à Lens. J'étais en temps plein exclusif.
Moi, la grande majorité, c'est temps plein maintenant. Tu peux pas faire un.
Je te dirais sur les clubs de Ligue 1, je dirais la moitié.
Putain, ah ouais.
Moitié, ouais. Ouais, je pense.
Toi, dans les clubs où t'es passé, ils étaient en temps plein.
Ah ouais, temps plein. Ouais. Temps plein, sauf une année. à Rennes, quand j'étais prêté à Rennes, on était en 98-99. Il y avait un doc qui était à mi-temps. Et il avait un cabinet aussi en ville. Uh-huh. Et nous, on l'appelait « Je fais mon job à mi-temps ». Tu sais, il y avait une célèbre chanson.
« Je fais mon job à plein temps ».
Et voilà, et lui, c'était « Je fais mon job à mi-temps ». Et c'était assez folklorique, c'est-à-dire que parfois, je finissais l'entraînement, il était 11h. Il est où? Il est parti, quoi. Ah bon? On le voit le lendemain. C'est assez surprenant.
Mais ça, c'est un vrai sujet, moi, je pense, pour à la fois trouver le bon équilibre. Parce qu'effectivement, dans le foot, alors certes, il faut être à peu près compétent, mais ce n'est pas seulement ce qu'on nous demande, quoi. Il faut être hyper dispo, il faut savoir communiquer avec les joueurs, avec le staff, et c'est des qualités aussi, presque aussi importantes que les compétences médicales pures et dures. Et à la fois, donc, d'être là tout le temps, ça te permet de la moindre petite douleur musculaire que tu as eu l'avant-veille, de la signaler, d'aménager le mec s'il faut, de le couper et de faire en sorte que... Enfin, on ne se rend pas compte, des fois, pour un médecin qui bosse à l'hôpital ou en clinique, ou il peut pas trop comprendre ça parce qu'on est sur de la transmission d'infos qui peuvent paraître anodines ou sans importance d'un point de vue... Oui. Mais finalement, dans la gestion d'un joueur sur sa semaine, parce que le but du jeu, c'est qu'il s'entraîne convenablement, mais qu'il joue le match le samedi, si t'es pas là tout le temps, c'est plus compliqué, quoi, que l'information, elle transite bien et que tout le monde s'y retrouve, quoi. Que le joueur, il soit mis dans des bonnes dispositions, que le coach, il est le joueur. Voilà, et que quand t'es à mi-temps. Et par contre, quand t'es à temps plein, je trouve que t'es un peu coupé aussi du vrai monde médical. Aussi vu de l'extérieur, on se dit médecin dans le foot, c'est la question classique quand t'es à l'apéro avec des copains, qu'est-ce que tu fais la journée, comment ça se passe? Alors certes, il y a un temps médical, quoi, mais après c'est beaucoup la gestion à la fois des joueurs, gestion de notre staff médical aussi,
c'est le plus dur.
Et donc quand on est coupé un petit peu aussi de la réalité médicale, je trouve que c'est donc on devient très bon dans le foot, mais peut-être un peu moins bon sur la médecine classique, quoi. Donc, moi, en tant que médecin, je pense que le bon équilibre, c'est de faire un peu des deux. Mais je pense que c'est se mettre dans des conditions difficiles pour le fonctionnement de gros clubs. Je pense que, voilà, après, c'est...
Est-ce que c'est la même chose, alors, je veux dire, quand tu es à l'extérieur du foot ou quand tu as ton cabinet, ou en clinique ou à l'hôpital, le docteur, j'ai vraiment l'impression quand il donne son avis, mm-hmm. il est vraiment entendu, écouté et respecté. Mm-hmm. Est-ce que c'est la même chose dans le foot ?
Bah déjà, j'aurais pas le même discours en tant que médecin. Tu vois, par exemple, on prend le classique d'une lésion musculaire de Monsieur Tout-le-Monde. Bon, voilà, je sais que je le vois au moment du diagnostic, je l'aurai potentiellement à 4 ou 6 semaines. Donc, je vais dire, bon, voilà, vous avez une lésion, une déchirure ou un grade 3. Bon, voilà, vous en êtes pour 6 semaines. Et puis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Dans le foot, ce que m'avait dit un coach et que je trouve pas idiot, c'est de dire, moi, si j'ai un mec qui sait pour me dire, ah, t'as une lésion, c'est un grade 3, j'ouvre mon bouquin, c'est 6-8 semaines, j'ai pas besoin de médecin, quoi. Exactement. Moi, je peux le faire. Et ce qui est pas idiot, parce que aussi sur des pathologies comme les lésions musculaires, où des fois, entre la théorie et la pratique, on voit des choses, qui dissonnent, bah, notre rôle, c'est de le remettre, tenir compte des délais cicatriciels classiques, mais aussi remettre le mec en le voyant au quotidien. La plus-value, c'est qu'on le voit au quotidien, que le mec, il a des soins tous les jours, voire deux fois par jour. Bah, c'est qu'on peut
accélérer,
on peut gratter du temps, quoi.
C'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire que de 4 à 6, il redescendra deux, trois semaines.
Exactement.
Et qu'il soit performant.
Ouais.
Et c'est là le processus.
C'est là la plus-value d'un staff médical.
D'un staff médical, d'où la coordination avec ton prépa athlétique, le prépa athlétique et aussi le coach, lui faire comprendre que non, on avait dit 3 semaines. Et là, au bout de 2 semaines, tu me mets un peu la pression. Comment ça va? T'as subi ça un peu, cette forme de pression, après le deuxième jour, alors que tu l'avais dit dans 15 jours. Alors, Louis, il en est où là?
Je l'ai mis sur la feuille déjà. Là, il est.
Ah, il en est où tous les jours? Et je sais que en ayant parlé avec beaucoup de docs, ils me disent, oh, ils sont relous, quoi. J'ai dit 2 semaines. On est le deuxième jour. Ils me disent, il en est où? Un peu mieux qu'il y a 2 jours et beaucoup moins bien que dans 18.
Bah, c'est un peu le souci de. C'est un avantage de voir les patients ou les joueurs tous les jours. Donc, et à la fois, c'est le désavantage parce qu'on a plus de. On a plus le recul, quoi. Le mec, tu vas tous les jours, tu vas réexaminer tous les jours. Enfin, d'un jour à l'autre, t'as peu d'amélioration. Bah, c'est marginal. Après, pour revenir à ta question, c'est vrai que. Au début, ça te. Ayant commencé tout jeune, moi j'ai eu la chance de commencer tout jeune, ça te bouscule un petit peu. Puis après, un peu de bouteille, tu te rends compte que c'est un petit jeu classique. Le coach, il veut le récupérer le plus vite possible. Mais ça. J'ai jamais trop mal vécu cette pression-là du coach à vouloir faire revenir rapidement. Ça se fait plus souvent sous le mode de.
Ça chambre un petit
ouais,
peu.
Ouais, un peu du chambrage, on va dire, c'est ça.
Il n'y a pas la pression de la presse non plus. Ça dépend des clubs, parce que parfois.
Ouais, je trouve que là-dessus, ouais, j'ai jamais.
Ça a été cool. C'est bon,
après,
c'est tant mieux.
J'ai pas été médecin au PSG ou à Marseille, quoi. Mais tu vois, moi, j'ai commencé assez jeune et c'était Antoine Camborel, coach.
Ouais, par curiosité, t'as commencé à quel âge, du coup
30 ans.
D'accord. Ouais, donc t'étais plus jeune que certains joueurs, par exemple.
Ouais. Oui, t'attaques, t'es.
D'accord.
T'es plus jeune que certains joueurs.
Parce que j'imagine que c'est pas neutre, ça, même dans le message. C'est en général, t'as la figure du médecin, c'est en général quelqu'un.
C'est
un gros cliché que je peux sortir, mais un peu plus âgé, un peu plus sage, etc. Donc je sais pas, quand le mec, t'es dans le vestiaire, t'as 34 ans, t'as 15 ans de Ligue 1 et t'as un doc qui arrive qui a 30 ans, j'imagine qu'il y a une perception de la part du joueur qui est particulière quand même.
Ouais, et puis les mecs. Enfin, tu vois, c'est un peu le rapport. Les mecs qu'il faut arriver à convaincre, c'est les mecs de 33-34 ans, quoi.
Ouais.
Et ça se répercutera sur les plus jeunes. Si les mecs de 33-34 ans, ils te font pas confiance, bah, ça marchera pas avec les mecs de 20 piges, quoi. Ouais. Donc c'est là où, certes, tu peux être. En tout cas, c'est mon avis, tu peux être très très compétent médicalement et pas avoir la bonne approche avec ces mecs-là et la machine, elle s'enraye. Et l'inverse est une buse notoire et bon, je pense pas quand même, quoi, mais en tout cas avoir des compétences peut-être un peu moindres et puis dans le management du truc, dans la communication avec les joueurs, ça se passe mieux, quoi.
Mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est un truc qui revient souvent dans les discussions avec des métiers très techniques autour du club et du foot. Tu vois, par exemple, quand on parlait de data, d'analyste, etc., pour encore une fois prendre cet exemple, n'est-ce pas, c'est que t'as effectivement le socle technique, le socle de ton métier, et t'as la capacité à parler le langage, c'est-à-dire que comment tu fais en sorte que la personne à qui tu t'adresses, que ce soit le DS, que ce soit le président parfois, le coach ou les joueurs, c'est la forme est quasiment aussi importante, voire plus importante en certains cas que le fond.
Il faut trouver la juste distance entre
exactement.
La proximité, mais pas être trop proche. Toi, dans ton cas, c'est trop proche des joueurs, t'es pas leur pote, Mais d'un autre côté, tu peux pas être trop aidant, parce que sinon, t'as vite fait, écoute-moi bien, tu vois, c'est très compliqué de trouver le juste milieu pour qu'ils te respectent, mais qu'ils aient confiance en toi.
D'autant que chaque joueur est différent, et j'imagine que t'as des mecs qui sont potentiellement particulièrement à l'écoute de leur corps, particulièrement intéressés ou qui ont des questions, et d'autres qui sont plus en autogestion et qui disent la médecine, c'est le doc, et donc c'est aussi c'est dans tout ça, trouver l'équilibre personnel avec le mec.
Ouais, et même dans la gestion d'une blessure, tu géreras des mecs différemment par rapport à ça. Hein. T'as des mecs, tu sais que à la moindre petite douleur, au moindre tac, t'es parti pour 3 semaines. Puis t'as des mecs qui jouent avec des blessures pas complètement sur des délais très just, mais tu sais que le mec, tu peux lui faire confiance, qu'il est fiable.
Alternative Football.
Le rapport coach-joueur, c'est toujours une décision tripartite où à un moment, nous, on est en zone grise. Tu dis, on est un peu just, ça peut le faire. Après, si on va jouer l'assurance tout risque, on attend un match ou 2 matchs supplémentaires. Si on décide de prendre un risque, on le prend tous les 3. Quoi. Le premier à accepter ça, c'est le joueur. Dire, voilà, ta blessure, on est en état, on est un peu just, là. C'est pas déraisonnable, on t'envoie pas au casse-pipe, mais t'as fait une bonne semaine, t'as fait une bonne réathlée, mais si on avait 15 jours de plus, je serais plus confort. Après, on le prend, on prend pas ce truc-là.
T'es du genre à mettre le veto ? T'as déjà mis le veto à un joueur qui voulait reprendre ? Parce qu'il y a souvent des joueurs qui veulent reprendre parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Et ils disent, non, moi je veux jouer samedi. Tu te débrouilles, je veux jouer samedi, tu dis au coach que je vais bien. Est-ce que t'as été confronté à ça ? Et deux, est-ce que t'as dit, écoute, moi, je lui ai dit non, tu ne joues pas, quitte à te brouiller avec le joueur.
Alors, de mes souvenirs, je n'ai pas l'impression que ce soit passé vraiment comme ça, tu vois. Soit à un moment, le joueur, il se rend compte de par lui-même que c'est pas jouable, quoi. Ou soit par, sans en arriver sous forme de veto, tu vois, en discutant, ça se passait de manière cool et raisonnée, quoi. J'ai jamais...
Mais toi, tu as déjà vécu ce que je voulais dire.
Ouais, nous, tu sais, la concurrence, elle est de tous les instants. Et donc déjà, quand tu t'entraînais pas, tu pouvais perdre ta place, entre guillemets. Mais quand tu avais 2, 3, 4 matchs, tu sais, dans 2-3 semaines de repos, entre guillemets, si tu joues à la Champions League, c'est 5 matchs qui sont passés. Et du coup, il y a certains joueurs qui avaient peur. Donc ils disent, non, mais remets-moi de suite, c'est bon, je vais aller beaucoup mieux. T'as pas eu ce genre de...
Alors, parce que peut-être aussi, tu vois, c'est vrai que des matchs, une finale de coupe, un truc... J'ai pas le souvenir, non, vraiment d'avoir été confronté en disant... Et après, et souvent, c'est ce que je disais, hein, des fois, on est parfois dans des zones un peu grises. Si le joueur, il estime pouvoir jouer, c'est qu'il va pas non plus trop mal. Si il est complètement arrêté, tu vois, et que plutôt, on se retrouve dans la configuration, les gars, là, on est just... Le risque, on n'est pas sur un souci cardiaque, quoi. On est sur une lésion musculaire. Ça répète, ça fait chier, mais c'est pas...
Tu informes le joueur et après le joueur... Tout le monde est OK.
C'est ce que je dis aux joueurs. Notre rôle, il est d'informer, d'expliquer, de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille bien, vite et bien. Qu'est-ce que tu risques si là, on va un peu plus vite que ce qu'on avait prévu. On met toutes les cartes sur la table. Après, ça marche que si derrière tout le monde est loyal, quoi. Quand on dise pas, je me suis répété, c'est la faute du doc. Bon, des fois ça se passe comme ça. mais je considère que notre rôle c'est ça, quoi. C'est vraiment dans l'information, l'explication, comme un peu on peut l'être avec un monsieur tout le monde, quoi, qui va faire son marathon dans 3 semaines. Qu'est-ce qu'on peut faire au mieux?
Vrai travail de médecin pour le coup. Mais j'étends un peu la question parce que je pense que c'est un vrai sujet qui intéresse les gens autour du foot. Et t'as un vrai fantasme autour de gestion des blessures. Tu travailles notamment au LOSC avec l'académie. Dans la galaxie du football autour du terrain, on en parlait, t'as le coach, t'as le DS, t'en as d'autres. T'as aussi la famille et les agents. Est-ce que que ce soit toi personnellement, soit via l'expérience de confrères, est-ce que tu as vécu tu as connaissance d'histoire où c'est ces gens-là, c'est-à-dire c'est l'agent qui met la pression en disant, moi j'ai une fenêtre de mercato dans un mois, faut que mon gars il fasse au moins 3 matchs, ou alors le père qui dit, on est en train de négocier le contrat pro, donc faut absolument... Est-ce que c'est des choses qui... C'est des pratiques, ça, dans le métier, ou c'est marginal?
Ça arrive d'avoir les parents à l'académie, ou les agents chez les jeunes, parce qu'ils ont tous des agents, ou chez les pros. Moi, je suis partisan du... Quand on me demande d'avoir l'argent, je suis pas contre. Je pense qu'il faut parler à tout le monde parce que ça fait partie de leur entourage, aux joueurs. Et c'est, de toute façon, ils vont lui demander conseil. Les agents eux-mêmes s'entourent de médecins ou de kinés ou d'ostéos qui sont leurs conseillers, etc. Donc moi, je pense qu'il faut accepter le fait de dialoguer avec eux, en le faisant avec le joueur, bien sûr, et éventuellement avec la famille. Franchement, ça c'est... chez les jeunes, c'est toujours bienveillant, je trouve. D'accord. Franchement, les agents, c'est pas...
T'as pas de dérive ou...
Non.
Ok.
C'est, il y a eu quelques cas en plus épineux. Parce qu'après, tout rentre en ligne de compte. Hein, des mecs qui ont 17 ans, qui vont signer leur premier contrat pro, ouais. S'il y a des problématiques médicales derrière. Enfin, il faut... Nous, le secret médical, on est un peu entre deux, quoi. Il faut léser personne, quoi. Ouais. Et donc il faut... Mais j'ai plutôt le souvenir d'avoir été avec des gens compréhensifs et plutôt intelligents. Chez les pros, c'est différent. Et je pense que plus ça va, plus c'est difficile de contrôler. Un joueur, il a un peu le pouvoir. Hein, surtout, et même au niveau de musique, à un moment, il décide d'aller à tel endroit. C'est compliqué. C'est rare que les clubs, pour se faire soigner, etc., c'est rare que les clubs refusent. Après, ça peut partir en tension et ça va pas bien. Donc, ça peut être un peu plus tendu chez les pros. Mais encore une fois, je trouve que les agents, en tout cas, et les entourages familiaux, pour les jeunes, ça se passe plutôt pas trop mal, quoi.
Mais c'est important. Ils font attention parce que c'est le corps, c'est l'outil de travail, donc ils veulent pas le bousiller, quoi.
Ouais. Surtout aux âges.
Mieux vaut, ils acceptent plus facilement de perdre une semaine, deux semaines, trois semaines, plutôt que de perdre carrément une blessure plus grave et puis.
Ça fait de chance, mais je pense que tu vois, t'as beaucoup de fantasmes qu'on essaye d'adresser ici, et je pense que le côté de l'agent. On avait parlé avec Joachim hein, sur l'image très ternie des agents et le fait qu'ils soient forcément dans quelque chose de pas forcément constructif. C'est aussi bien de le démystifier.
Ouais, il y a des garde-fous quand même. Il y a des garde-fous.
Mais du coup, je pense qu'on perçoit le lien que tu peux créer avec le joueur et tu vois, la place du dog dans l'équipe. Du coup, dans les succès, dans les échecs, comment on se sent quand on est médecin ? C'est-à-dire qu'on est complètement à part entière de l'équipe, c'est-à-dire qu'on vit le titre comme un joueur vivrait le titre ou comme quelqu'un du staff vivrait le titre, ou est-ce qu'on a quand même toujours un peu de distance en disant, après j'imagine que tu as un côté perso, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont plus ou moins impliqués dans les équipes, mais comment toi tu l'as vécu sur des grosses victoires, sur des grosses défaites ?
J'ai connu des années un peu compliquées à Lens, donc j'ai pas beaucoup de...
Donc du coup,
forcément, il y a des bons et des mauvais moments.
Toi, j'imagine que je te coupe, excuse-moi, mais toi, tes victoires, c'est aussi quand t'as, tu mets à disposition mais tous les 25 joueurs, il n'y a aucun blessé, tu dis à ton coach, tiens, t'as tous tes joueurs, ils sont fit.
Alors, c'est peut-être pas bien, mais je me fixais un peu cette distance-là. Mon taf, c'est ça.
Mettre à disposition les joueurs.
Ça regarde que moi, mais justement, je pense que... il faut faire ce métier-là pour les bonnes raisons, quoi. On ne doit pas vivre une vie par procuration. On n'est pas là pour... Alors certes, tu as la chance, tu vis forcément quelques émotions, bonnes ou mauvaises, et à des degrés moindres qu'un joueur ou qu'un coach, mais tu es là pour accompagner les mecs, quoi, pour les aider. Tu n'es pas là pour ta petite personne. Alors, c'est un côté, tu es un peu exposé, tu as une certaine reconnaissance sociale, médicale, mais qu'il faut mesurer, quoi. Je suis pas professeur de neurochirurgie, quoi.
Puis de médiatique aussi, hein, parce que on les voit les médecins là,
mais je trouve que ça c'est pas bon. Enfin, en tout cas, après ça répond au caractère de chacun, mais je pense que notre rôle, c'est d'accompagner et de pas se faire mousser dans les bons moments, et pour aussi, moi je considère que heureusement, les équipes gagnent pas que grâce aux médecins. Ouais. Enfin, en tout cas, sur
l'aspect... Ou alors, ça veut dire qu'il a la culture un peu facile, le médecin.
Sinon, c'est qu'il y a peut-être un petit souci. Et en même temps, tu vois, t'es souvent dans les équipes, quand tout va bien, tous les joueurs, tu peux parler de vouloir jouer. Quand ça va bien, tous les joueurs veulent jouer. Personne vient te voir. Même les joueurs qui ont des petits bobos viennent pas te voir. Donc, t'es souvent sur un cercle vertueux. On dit, bah ouais, les équipes qui gagnent, c'est les équipes qui vont être blessées. Bah ouais, mais est-ce qu'elles n'ont pas beaucoup de blessés parce qu'elles gagnent, ou est-ce qu'elles gagnent parce qu'elles n'ont pas beaucoup de blessés? Je pense qu'il y a un peu des deux. Moi, j'imagine l'envers du décor, mais je pense que les agents, ils disent, bah là, participe pas à cette purge, quoi.
Si t'as mal,
Edouard, tu le diras maintenant.
Très bonne transition. Du coup, il y a la blessure suite à un choc, Donc un trauma, un tacle dur ou la blessure émotionnelle, dite psychologique, dont beaucoup de joueurs
voire même la mesure de complaisance à un moment. Un
diplomatique, celle-là, on en reparlera plus tard, mais, non, mais effectivement, donc ça c'est pas évident à gérer.
Bah avec la bouteille, tu le sais aussi, tu fais ce qu'il faut, tu fais des examens pour trouver des choses, puis tu fais des examens pour éliminer des choses, ouais. Quoi, tu vois.
Ouais.
Alternative Football.
C'est ce sur quoi je voulais rebondir, parce que ça me fait penser à l'épisode avec Myriam, sur tu vois, c'est une psychologue du sport, on avait fait un épisode avec elle la saison dernière, et est-ce que la partie psychologique qui reste, je t'invite à écouter l'épisode de Louis quand t'auras l'occasion.
Mais j'en ai écouté quelques-uns pour savoir à quelle sauce j'allais te manger. Ouais.
Non, c'est soft.
Mais tu vois, est-ce qu'en tant que médecin, dans le cas très concret qu'Edouard évoque, le mec qui veut soit se planquer un peu, soit il se sent pas bien, est-ce que t'as déjà dit à un mec, bah écoute, je te conseille d'aller voir un psy. Et ça, c'est le contact d'un psychologue que j'ai, ou est-ce que ça, c'est une ligne que tu franchis pas en tant que médecin dans un club de foot ?
Ah, si. Alors, pas comme ça frontalement, mais d'accord. Tu tends la perche. Si, ça
tu l'amènes
ça.
Se rendre compte
n'hésite
que...
N'hésite pas, si à un moment c'est trop dur, tu m'en parles.
Tu peux voir
on
quelqu'un.
En parlera, ou je t'indiquerai des personnes, d'autres personnes, un peu, des fois, des personnes en dehors de l'extérieur du club. Le joueur, des fois, de par ton statut de salarié du club, il peut douter un petit peu aussi de ton indépendance, hein, tu vois. Que tu sois un bon mec, un mauvais mec. Donc, pas de manière aussi brutale, mais oui, souvent ça, ouais.
D'accord. Ça, souvent, carrément. Donc c'est quelque chose qui est...
Enfin, souvent ça. Ouais, c'est arrivé plusieurs fois, quoi.
D'accord.
Ouais.
Ok. Ah ouais, tu vois, donc ça, c'est... C'est pas nous, parce qu'on enfin, on va pas refaire l'épisode sur la psycho, mais on a longtemps parlé avec BM de, si tu veux, le côté relativement négatif du fait d'avoir un psy, de voir un psy pour quelqu'un, et à tort, hein, mais la perception en soi que t'en as en
non,
France.
Mais y a une, à Lens, on avait mis en. Alors, surtout quand j'y étais, moi j'étais presque exclusivement chez les pros, mais j'intervenais aussi un petit peu chez les jeunes, et on avait mis en place. Une psychologue qui intervenait, et ça prend tout un temps d'adaptation. Tu vois, il faut que la personne elle soit apprivoisée, qu'elle fasse partie du décor pour qu'à un moment d'aller chez le psy, ce soit pas un aveu de faiblesse, parce que c'est un peu ça. Ouais. Chez le psy, qu'est-ce qui. T'es un faible, quoi.
T'es
tu
malade,
vois.
Ouais.
Alors que je pense, dans notre pays, ça fait partie des différents outils pour performer. Peut-être chez nous, ça l'est
c'est
moins. Et ça demande, de toute façon, il faut passer par une phase où tous les gens vont s'apprivoiser. C'est pour ça que je pense qu'il faut, quand tu le fais, il faut prendre le temps de choisir les bonnes personnes. Mmh. Tu peux pas changer. Enfin, ça prend tellement de temps pour que la personne fasse son trou, fasse partie du décor, que si tu changes tous les ans, t'arrives à rien, quoi.
Et puis c'est dur parce que tout le monde veut bosser dans le milieu du foot. Mm-hmm. Donc du coup, ça attire un petit peu ça attire des charlatans, quoi.
Ouais.
Oui.
Ouais. Et je pense l'autre levée de difficulté qu'on a évoqué dans la relation médecin-joueur, c'est que il y a quelque chose qu'on reprend souvent quand on parle de sportifs, c'est que les sportifs connaissent leur corps. Et du coup, c'est un truc sur lequel tu vas pouvoir nous renseigner, Edouard. Mais t'as déjà eu des mecs qui sont venus te voir en disant ouais, je sais que j'ai ça, pas besoin de faire un diagnostic plus approfondi, je sais que c'est ça, je vais faire ça, ça va revenir. Et quand t'as quelqu'un qui approche des choses comme ça, même si effectivement, parce que son corps c'est son outil de travail, on peut lui donner un certain crédit, comment tu l'approches en tant que médecin ?
Alors que quelqu'un arrive en disant oui, je me connais, ouais. Je connais mon corps, c'est ça, ouais, ça arrive. Après, l'approche, nous, c'est quand même de mettre du rationnel dans tout ça, quoi. Ouais. Tu vois, dire voilà, s'il faut faire une écho, une IRM ou un examen, quoi, ok, t'as besoin d'objectiver les choses réellement, mais t'en tiens compte. Quelqu'un qui. Enfin, l'interrogatoire du patient, c'est un élément primordial, quoi. Le mec, s'il te dit ça va pas, c'est que ça va pas. Enfin, et que tu trouves rien, bah, tu vas chercher plus loin. Enfin, mais oui, t'en tiens compte et ça arrive souvent.
Est-ce qu'il y a deux façons d'être docteur ? Docteur sans dénigrer Lille ou Lens, où ça reste quand même des clubs famille, avec des clubs super médiatisés comme Paris. Est-ce que tu peux faire est-ce que t'as le même titre, mais est-ce que tu peux faire tu peux assumer ta fonction de la même façon ? Je dis ça parce qu'il y a une grosse pression au niveau des médias, une grosse pression au niveau des résultats. C'est-à-dire qu'un cas comme Neymar ou Mbappé ou des joueurs comme ça qui sont blessés et qu'il y a une grosse finale ou qu'il y a un gros match, enfin, finale, c'est pas prêt. Une finale de Champions League, c'est pas prêt.
Pourquoi
tu dis ça ? C'est pas de sitôt. C'est très souvent un gros match de Champions League, genre un huitième de finale de Champions League.
il est méchant, Edouard.
Non, je chante, mais tout ça pour dire que tu vois, il y a des joueurs. Il vaut mieux les avoir sur le terrain et parfois quand ils ne peuvent pas l'être ou quoi que ce soit, est-ce que tu penses qu'il y a une pression ? Comment tu as géré de la même façon à Lens qu'à Paris ? Là, c'est une projection, tu peux te projeter, mais ne me réponds pas, non, je suis pas à Paris.
Ah non, mais je pense qu'il
faut... pour te défendre.
Moi, je pense qu'il faudrait agir de la même façon à Lille, à Lens ou à Paris ou au Real.
Tout à fait.
Et je pense que le côté où à un moment tout le monde doit... Enfin, la pression décuplée, tout le monde doit, pour de quelques échos aussi que j'ai de gros clubs, ça c'est hyper délétère finalement à des retours... vite et bien, quoi, ouais. Tu vois.
Parce que, pour aller dans les sujets, les joueurs blessés, souvent, parfois, ils préfèrent être suivis dans leur pays d'origine, Brésil, voilà. Espagne, tout ça. Et pas que des grandes stars, parce que moi, quand j'étais à Marseille, il y avait César Azpilicueta, qui était tout jeune, hein, qui se fait les croisés, et qui décide de ne pas se faire opérer à Marseille, et d'être suivi. Pourtant, à Marseille, t'as un grand ponte, hein, du genou.
Qui est décédé il n'y a pas longtemps.
Oui, qui est décédé il n'y a pas longtemps, je ne me souviens plus de son nom. Il décide d'aller à Barcelone, et il a 20 ans. Et, là, et je finis, et ce qu'il dit, il dit, c'est ma carrière, je décide. Suite à ça, effectivement, tu dis, c'est effectivement sa carrière. Et donc, il s'est fait opérer là-bas, il a fait un protocole de 2-3 semaines. Après, il est venu faire la rééducation à Marseille. Mais ce n'est pas évident.
Alors, ouais.
Enfin, comment le docteur peut le prendre, enfin,
pareil, moi je serais dans la... Ça arrive souvent, ça, j'ai cette okay. question-là, de dire je me fais pas opérer par le chirurgien du coin. Moi, au joueur, un classique, un croisé, je lui dis, bah voilà, moi je connais un chirurgien compétent à Lille, à Paris, à Marseille, à Lyon, beaucoup se font opérer à Lyon. Ouais. Tu me dis, je décroche mon téléphone, je les appelle, après, potentiellement aussi, ça arrivait qu'il me cite un autre nom. Si le mec, c'est un mec compétent, bon, après c'est un petit mieux, hein, ils se font opérer, enfin, on connaît un peu la boucle, est vite bouclée, ça me pose pas, pour l'opération, la chirurgie en elle-même, ça me pose pas un souci. Effectivement, c'est son genou, c'est sa carrière, de toute façon, si on le contraint à aller quelque part, t'as c'est de bonnes chances que ça se passe pas bien, quoi. Donc... t'es obligé d'être dans un consensus, quoi. Sinon ça va beurrer, quoi.
Mais c'est dans le protocole de réhabilitation que tu veux dans le suivi.
Ouais, suivi. Moi, où ça me choque, c'est quand le mec, il se fait une entorse de cheville et qu'il va à l'autre bout du monde, quoi. Tu vois, à un moment, les staffs médicaux de club qui sont quand même bien dotés, ils sont pas là pour traiter les entorses de cheville, les lésions musculaires et machin. Bah, moi, ça m'intéresse pas de faire ça, quoi. Tu vois, ouais. Si c'est juste pour dire que je travaille dans un club et pas faire mon métier de médecin. Bah, ça n'a pas de sens, quoi. C'est que à ce moment-là, t'externalises comme dans d'autres subdivisions de club, quoi. Hein. Les services commerciaux, des fois, c'est de ce moment-là, tu te dis, bah, dès qu'il y a un truc, putain, là, on a un partenariat avec un truc en Espagne, on voit tout là-bas, quoi. Ouais. Tu vois. Et puis, nous, on met des poches de glace, quoi. Ouais. On attend. Mais ça, je pense que c'est pas bon pour notre métier. Je parle pour les blessures mineures. Pour une blessure majeure qui se fasse opérer à tel endroit du monde, pense que tu peux pas lutter déjà d'une, que c'est de lutter, c'est pas bon, et que tant que t'es là pour contrôler,
tu valider, fais un consensus, quoi.
Ouais, valider un peu que le mec c'est pas un charlot, quoi, mais et qu'après oui, la rééducation t'es quand même la main. Mais quand tu parlais de gros clubs ou soi-disant gros clubs qui à un moment dès le moindre petit pépin le mec se barre ailleurs pour faire les soins. Avant de commencer, t'es sûr que tu perds, quoi. Tu perds du temps, c'est sûr, ça peut pas marcher. Et même dans une logique où ce qui est difficile, tu sais qu'une blessure, elle va bien si plus t'es linéaire dans la progression de la rééducation, puis de la réhabilitation, puis de la reprise. À un moment, le mec... alors, le club, il te sollicite pour faire des reports et des machins, des trucs. Mais bon, à un moment, t'es avec un gars... en Espagne, qui t'envoie un mail, ça n'a aucun sens. Et puis le mec, il va redébouler, soi-disant prêt, tu sais pas ce
t'auras
qu'il a
pas
fait.
T'auras pas t'auras pas suivi.
Là, on s'imagine que
c'est
là...
Bon, je peux jouer.
Ben voilà, ouais. Mais tu vois, on se dit derrière, le mec qui est dans sa télé, dit, putain, le foot, c'est la Formule 1, quoi. Ouais. Alors que des fois, vu de l'intérieur, tu te dis, putain, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Tu vois, ouais. Donc...
Alors, il y a un domaine du médical qui est très exposé et qui génère aussi beaucoup de fantasmes, notamment dans la période qu'on va connaître sur les mois prochains, c'est la fameuse visite médicale. Uh-huh. Alors déjà, est-ce que l'un et l'autre, toi, tu en as vécu quelques-unes, Edouard, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que c'est, cette visite médicale et comment ça se passe? Et ensuite, la question que j'ai envie de te poser, c'est, on parlait de veto tout à l'heure, on parlait du fait de dire le joueur joue, joue pas, etc. Est-ce que le médecin Et parce que dans le storytelling, la physique médicale, en gros, c'est tout est signé. Fabrizio Romano, il dit « here we go », il annonce son tweet, etc. Le transfert se fait, mais ça dépend de la visite médicale. Donc on a vraiment l'impression que c'est le moment où le médecin, il peut dire « on ne le signe pas ». Parce que y a, c'est drôle. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que du coup, c'est un peu différent de ce qu'on disait sur la gestion de la saison, où tu dis « ce mec-là ne peut pas jouer maintenant, mais on en parle ». Ou est-ce que non, là aussi, t'es dans un truc où bah, t'as ton avis, mais s'il faut faire le joueur, et le club fait le joueur ?
Non, là, pour le coup, s'il y a vraiment un, c'est toi qui signes le certificat médical. D'accord. Et de ce que je comprends des dossiers administratifs, pour valider un contrat, t'as besoin de ça. Ce qui est un peu étonnant, parce qu'à un moment, bon, tu pourrais signer le contrat, s'il y a un souci médical derrière,
ouais,
tout le monde s'y retrouve. Mais bon, en tout cas, dans le process de la signature, il y a vraiment ce certificat médical. Et alors, en théorie aussi, ce qui se passe pas en pratique. Ça devrait pas être le médecin de club qui signe ce contrat, ce certificat médical.
Je ne savais pas, c'est que c'est l'objet de la visite médicale, c'est de signer un certificat médical.
Donc de non-contre-indication.
Pour la pratique.
À la pratique du foot au niveau. Donc nous, notre rôle, alors, que ce soit le médecin de club ou le médecin de la clinique d'à côté qui voit le médecin, c'est dire est-ce que ce mec-là, il n'y a pas de risque pour sa santé, de risque grave à pratiquer le football. Sous-entendu, le risque majeur à éliminer, c'est les soucis cardio, quoi. C'est ça, et on a vu quelques-uns, voilà. Et des fois, et notamment à ce niveau-là, les points un peu sensibles, c'est que des fois, t'as des mecs, et notamment des joueurs d'origine africaine, qui ont un peu plus de problématiques cardiologiques, bah, t'es dans des zones un peu grises, c'est-à-dire que le mec, là, ça va, il peut signer, mais il est dans une zone qui peut évoluer et peut passer de l'autre côté, quoi, tu vois. Donc à un moment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des bilans tous les ans, quoi, c'est que les mecs, à un moment, ça peut être bien quand tu signes, puis deux ans après tu refais un point, ça va pas, quoi, tu vois. Donc là, faut aussi, il y a un peu de pédagogie, éduquer les clubs là-dessus, parce que il y a eu des histoires là-dessus, toi, avec des joueurs, je pense à Dagui Bakary, Alon, justement, qui est, voilà, ça a créé des soucis.
Ah, mais je me rappelle aussi de je sais pas si vous rappelez, mais de Lilian Thuram qui doit signer au PSG, qui va finir à Paris, et conférence de presse, et il annonce en fait que il y a un problème cardiaque, je sais plus si c'était.
Oui, non, mais c'est ça. Il y a eu Loïc Lamy aussi. Il fait Nice-Marseille.
Lui, tout le monde le sait. Tous les ans, son dossier.
Faut faire attention, exactement.
Et donc, justement, là, la Fédé, elle a mis des choses intéressantes en place, parce que pour un peu décharger les médecins, c'est parce que, bon, voilà, si tu dis, bah, ça va, mais c'est pas top, quoi. Tu vois, le mec, il va dire, bon, on peut lui mettre 4 ans, on va lui mettre un an. Ouais. Et toi, t'es délétère pour le joueur, et t'as pas respecté ton secret médical. Donc, tu vois, t'es dans une situation vraiment hyper bancale. Et donc, dans ces cas-là, pour rapport à la décision de la signature du certificat de non-contre-indication, dans ces cas épineux, comme c'était le cas pour Loïc Rémy, c'est un collège de cardiologues experts qui se réunissent, ils étudient le dossier et ils valident le dossier.
Et après, il y a une prise de décision par le club aussi. Est-ce qu'on le fait ou pas ? En sachant après, ça. Donc, il y a eu 48 heures, et puis après, ils ont pris. Il n'y a pas le choix, il a refallu un attaquant. Donc, tu vois, il y a ça aussi. C'était vers la fin. On n'a que 15 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on fait ? Si on le laisse filer, est-ce qu'on peut se rabattre sur autre chose ? Bon, le club n'a pas pu se rabattre sur notre joueur. Mais en Angleterre aussi, très souvent. Souvent, il y a des joueurs au niveau des genoux. C'est surtout.
Mais des fois, les réglementations ne sont pas les mêmes selon les pays. Tu as des mecs qui se font contre-indiquer en France, ils vont jouer en Espagne, ils jouent. Donc, aussi, enfin, ça.
C'est dû à quoi, ça ?
Parce que je pense qu'ils n'ont pas les mêmes critères, quoi. Pour eux, ils sont beaucoup plus souples sur les
la zone grise, les plus petites.
Ouais, c'est ça, ouais. Et je pense que notre rôle, il est vraiment là, sur ces cas rares. Mais sur le plan cardio, là, pour le coup, s'il y a un veto à mettre, tu rigoles pas, parce que c'est potentiellement le mec qui
meurt. Ouais.
Après.
Ou pas, parce que là, tu parlais du cœur, mais ça peut être les genoux aussi. Très souvent, les genoux, par exemple, les genoux cagneux. Je connais pas toutes les traumas des genoux, mais bon, si ton joueur, tu sais qu'il a 30 ans ou un peu plus jeune, et que tu veux lui signer 4 ans, et que au moindre entorse ou au moindre choc, tu le signes pas. Et en Angleterre, ils communiquent sur ça, ils disent on ne le signe pas, pour les raisons genoux un peu défectueux. Alors c'est dur aussi pour le joueur après, quand il va sur le marché du travail, il a cette réputation du genou cagneux.
Ouais.
Bah moi,
c'est
je trouve pas ça très réglo, tu vois, en tant que...
Mais ils communiquent, les Anglais, sur ça. Hein.
Bah ouais. Oui, je suis étonné, même des fois que ça...
Ou il a pas passé la visite médicale. Si tu passes pas la visite médicale, ouf, il y a un loup. Mais donc, du coup, tu deviens sur le marché, genre une...
T'as des histoires de fou, et tu vas peut-être pouvoir nous éclairer sur ça, mais je ne sais pas si tu te rappelles d'Alice Sissoko, qui doit aller à Milan, et qui recalait à la visite médicale pour son examen dentaire.
Oui, exact.
Et
ouais, c'est du délire. Hein.
Ouais,
enfin,
le mec des vieilles dents.
Mais le mec le justifie en disant que tu as un lien direct entre, en gros, la qualité de tes. Enfin, pas la qualité, mais tes problèmes dentaires et c'est... potentiellement des problèmes musculaires de pubalgie spécifiquement. Est-ce que ça, c'est des théories qui appartiennent aux médecins des clubs? Ouais.
Oui, là, on n'est pas sûr.
Vous n'avez pas l'image, mais.
Alors, mais c'est toujours mieux de ne pas avoir d'abcès dentaire. Alors, la connexion. Oui, non, mais là, c'est politique.
C'est la politique. Ils ont des dentistes à Milan.
Oui, non, mais voilà.
C'est une façon de dire. Non,
le bilan médical. C'est...
Milan est la seule ville du monde sans dentiste. Donc, il arrive les faire
obligé de jouer. Tu vois, ce qui est intéressant de la part du Milan AC, ils l'ont fait en mode gentleman. Écoute, voilà, t'as des problèmes de chicot, t'inquiète, on peut pas te prendre. Mais c'est illogique.
Ouais.
Si tu veux plus le joueur.
Elle a bon dos, la
médecin. Ça peut pas être ça, quoi.
Bah ouais, je trouve que là, le médecin, il a bon dos. Parce que,
c'est le doc, c'est pas nous. Hein.
Non, mais voilà. Tu vois, mais pour moi, il y a deux champs dans ce truc-là. Nous, c'est garantir la santé du joueur, d'abord pour lui, pour qu'il puisse pratiquer sans inquiétude. Et puis après, il y a l'aspect perf, quoi. Tu vois, un joueur de 32 ans, s'il a de l'arthrose débutante de genou, bah, limite, il n'y a même pas besoin de lui faire une IRM pour le savoir, quoi.
Ouais,
tu vois,
c'est
ça,
logique.
À partir du moment où tu signes des mecs comme ça, tu te dis qu'ils vont peut-être pas jouer 40 matchs dans la saison, quoi. Ouais. Tu l'acceptes. Ouais, tu le deals avec le joueur, j'imagine. Enfin, tu vois, ça fait partie du truc. C'est même pas un sujet médical en soi, ouais. Quoi. Tu vois, après, des fois, t'as des bonnes surprises, t'en as des moins bonnes, mais pour moi, notre job, il est vraiment ça, de garantir au joueur sa santé et que par rapport au secret médical, la. Qui est toujours, c'est dans un club de foot, un fonctionnement, t'es jamais. C'est compliqué d'être nickel là-dessus. Mais en tout cas, l'information, elle doit transiter par le joueur. Moi, quand à Lens, le joueur faisait sa journée de visite médicale, moi, je le voyais à la fin, on faisait un peu le point. Je lui signais son certificat, je dis, maintenant, tu montes à la direction et tu.
C'est quoi les tests que vous lui faisiez faire? Cardiogramme, électrocardiogramme, test d'effort et tout ça?
Alors, pas forcément test d'effort, on le fait pas maintenant, c'est pas une obligation.
Ouais, okay. Ouais,
enfin, s'il y a un souci, on fait un examen de repos, donc électrocardiogramme,
échographie.
S'il y a un souci à ce niveau-là, ou si des antécédents particuliers, on fait épreuve d'effort, voire des IRM cardiaques maintenant.
Okay.
Mais pas forcément de base.
Ok.
Plus après,
le trauma,
un examen clinique, un bilan biologique. Alors, si on pouvait le faire avant, ça dépendait du timing, test isocinétique, les kinés faisaient toute une batterie de tests. Des fois, le bilan dentaire, ça arrivait qu'on... Pareil, si dans le timing... Des fois, les joueurs, ça dépend de la fenêtre de tir que t'as pour faire le bilan.
C'est ce que j'allais dire. Du coup, ça suffit une journée ou quelques heures? Tu devrais pas prendre plus?
Si l'affaire est bien coordonnée, bien goupillée, c'est toujours l'avantage d'avoir des correspondants médicaux, tu vois, d'avoir un réseau. La médecine, c'est toujours un peu du réseau de correspondants, mais là encore plus, quoi, dans le foot. Hein.
Et t'as accès à un dossier médical où tu peux avoir une discussion avec le doc du club où il était avant? Comment ça se passe?
Bon, si c'est des joueurs qui jouent en France, ouais, souvent. D'accord. Tu décroches ton téléphone.
Tu transfères le dossier.
Ouais.
T'as quel souvenir, toi, de ces visites médicales?
Elles étaient cool. À Paris, avec Hakim Chalabi, on avait des visites médicales de dingue. Ouais. Je crois que c'était l'un des premiers à nous faire des tests de cœur, tu vois, les électrocardiogrammes. C'était très pointu. Il nous faisait chier d'ailleurs, on reprenait trois jours avant, il faisait tous les...
Ouais, ouais. Il nous faisait chier à
quand t'es jeune, tu te rends pas compte, tu vois, mais c'était déterminant. Donc très tôt, il m'a inculqué tout ça, tu vois. Si t'es bien, t'es nickel, donc voilà. Il y a une forme de pression aussi, toujours, parce qu'il y avait Marvin Fouet qui était décédé à cause du cœur. À chaque fois, c'était la pression. Est-ce que mon cœur, il bat bien, c'est bien? T'avais l'appréhension.
Ouais, t'es arrivé avec une forme de...
Ouais, parce qu'à un moment donné, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y avait la théorie que les cœurs africains étaient différents.
C'est ce que tu disais,
un peu plus gros, un peu plus ceci, un peu plus cela. Bon.
Mais je te coupe deux ans parce que ça m'intéresse.
Je suis un petit peu africain.
Ça, c'est médicalement prouvé? C'est-à-dire que ça, c'est une.
Ouais,
c'est...
T'as des sujets d'origine africaine ou des Caraïbes qui peuvent avoir un peu plus.
C'est lié à une hypertrophie cardiaque,
c'est ça? Grosso modo, c'est ça, ouais.
Okay.
Donc, fallait faire attention. Non, le mien, comme il est métissé, donc ça va, il m'a dit. Non, tu vois, il y a toujours ça parce que c'est le moteur. Hein, c'est le cœur pour nous, c'est le cœur. Le reste, après, tu peux dealer, mais si ton cœur il est pas cool. Donc ouais, très carré. Puis après en Turquie, pour répondre à ta question, ouais, des grosses, on a des grosses cliniques à Sibaden. Ouais. Et là c'était sur 3 heures. Et tu fais des vrais tests, top. Et après, ils communiquent. Pourquoi en Turquie comme ça? Parce que le club est coté en bourse. Et donc, la moindre annonce a des impacts sur la bourse. Donc, c'est dans ces clubs-là.
C'est ouf, parce qu'entre, où est-ce que tu trouves l'équilibre entre le besoin du marché, parce que le club est coté en bourse, tu communiques, et l'équilibre médical, où c'est quand même des données qui sont relativement confidentielles.
Ah ouais, tu fais la visite médicale pendant 3 heures. Après, tu as l'annonce. Des résultats, c'est OK. Et après, il y a l'annonce au niveau des médias. Tu signes devant tout le monde. Et puis voilà. Et je dis, mais putain, c'est assez fort. Hein. Au départ, tu penses que c'est pour le bien fondé, la santé du joueur. Pas que. Attention, ouais. On ne va pas annoncer un truc. Ouais. Tout est son contraint en l'espace d'une journée. Donc voilà. Non, mais en tout cas, c'était ça le plus folklorique. Marseille, ça s'est super bien passé aussi. C'était assez drôle. Je ne dirais pas que j'ai signé avant. Mais ils avaient communiqué avant que j'avais signé. J'ai dit, mais c'est bizarre, j'ai pas passé la visite médicale. Non, mais t'inquiète, tout va bien se passer.
Edouard Cissé a signé, mais c'est ouais, moi, Edouard Cissé. Mais
vous avez communiqué, mais j'ai pas signé. Non, mais on l'a fait dans 2 jours, la visite, t'inquiète pas. Enfin, ouais, d'accord, ok, si vous voulez, mais on fait quand même la visite. Ouais, d'accord, ok, bon. Et puis après, j'ai signé après la visite. C'était assez drôle.
Il n'y a pas eu le décommuniqué. Bon, bah finalement, Edouard Cissé. Non,
parce que comme j'étais
habitué
à faire les trucs de manière carrée, tu vois.
Jurisprudence à
communiquer. Bon, je me mets pas de. J'ai pas la pression, mais quand même.
Il y a un sujet qui m'intéresse, je pense nous intéresse, parce que tu bosses aussi dans le cyclisme. On voudrait avoir ton avis sur, dans la qualité de l'utilisation de la médecine, où est-ce que tu places le foot par rapport aux autres sports? Est-ce que les sujets qu'on a évoqués, la surmédiatisation, les enjeux économiques, fait que la médecine n'a pas pas la place qu'elle devrait avoir, ou est-ce que non, justement, parce qu'il y a des moyens, c'est bien servi? C'est quoi ton regard versus les autres sports? Et je rajoute un dernier tiroir à ma question. Tu vois, on a beaucoup vu, par exemple, les sujets après la victoire de Nadal à Roland, où il dit qu'il joue sous infiltration, et tu as beaucoup de cyclistes qui sont montés au créneau en disant, mais nous, dans notre sport, ça, c'est pas possible, on ne laisserait pas le faire. Bon, c'est du tennis, ça n'a rien à voir, mais je trouve que c'est un match
marquant. Ils ont droit à d'autres trucs.
Louis va nous le dire.
Je veux pas rentrer, mais je veux pas que ce soit polémique, mais. Oui, effectivement. Ouais.
Sur la première question, par rapport au niveau médical du monde du football, non, je pense qu'au foot, globalement, les joueurs sont. Enfin, ce qui est mis en place est quand même performant en termes de moyens humains, que ce soit pour kiné, doc, en termes de réactivité, de moyens matériels aussi. Hein. Je vois là au LOSC, c'est un super centre. Quoi. Ouais. De base, Luchin, c'est un super centre.
De manière générale.
Et au niveau médical ou performance, pas grand-chose à dire. Hein. Je vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter, mis à part une IRM au club. Quoi. Mais globalement, il y a tout ce qu'il faut. Et puis c'est un sport où t'es sédentaire, quoi. Tu peux construire tout un réseau autour de toi. On disait, nous, notre petite personne, on a notre importance, mais après, c'est tous les radiologues, les cardiologues, les différents spécialistes. T'as les mecs, ils ont 3 mois de délai, ils attendent pas après toi pour gagner leur vie. Et donc, c'est quand tu peux construire ce réseau-là de gens performants et sympas, compréhensifs par rapport au monde du foot. Et des fois, t'as un peu honte. Hein, t'as des mecs, ils arrivent à la bourre, ils se garent sur la. Enfin voilà, il faut que les mecs aient une certaine souplesse, quoi. Sinon,
faut être plus clair sur ça, sur les échographies, généralement. C'est quoi les délais? C'est 3 semaines pour
Ouais, c'est ça, ouais.
3 semaines pour. Tu te fais un boubou, tu vas appeler, 3 semaines. T'es footballeur, tu t'es blessé le matin sur un petit entraînement, l'après-midi.
C'est ça, le joueur, il est pas conscient. Souvent, maintenant, on leur fait l'échographie au club, ouais. Tu vois. Par exemple, on a 2 appareils d'écho, et s'il faut, on fait l'IRM. Voilà, dans les 24 heures, on a l'IRM.
C'est l'IRM. L'IRM, c'est le plus long, hein. Ouais, pour avoir les rendez-vous. Ouais. Et nous, les IRM, il fallait aller à Paris. Et donc, à Paris, c'est le BINS. Mais Saint-Germain-en-Laye, Paris, donc c'est relativement loin. Hakim nous disait, bon, rendez-vous là-bas à 14h. 14h30, il y a des mecs qui étaient en retard. Ils comprenaient pas que tu fous un bordel de dingue, déjà t'as eu le privilège d'avoir ça. Ouais. Et une fois qu'ils ont compris que généralement le commun des mortels, ou tout simplement ton papa, s'il décide de faire un scanner ou une IRM, c'est 3 semaines, un mois, on peut lui dire non. Ah ouais, et ils ont commencé à comprendre. Mais effectivement, il y a des choses de folklorique.
C'est là où je pense même, hein, tu vois, par rapport aux jeunes, trouver le bon truc, quoi. Pas complètement déconnecter les mecs à ces speeches de la réalité, de plein de réalités, mais de cette réalité médicale-là aussi, quoi. Tu vois, qu'ils aient des kinés à leur dispo, faire de la récup, c'est bien. Mais je pense pas qu'il faille trop en faire non plus, quoi.
Ou leur expliquer que c'est vraiment un privilège de dingue, quoi.
Parce que je pense que quand tu les formes, ces mecs-là, et qu'ils se retrouvent en prêt à 18 balais en national, et qu'ils arrivent et qu'on leur dit, ah, ben, je vais te faire masser, maintenant tu fais 15 bornes, tu vas chez le kiné, machin. Le mec, il hallucine, quoi. Tu vois, quand tu sors d'un super centre où t'es comme un coq en pâte, t'as ta chambre, ta douche, tu vas prendre ton plat de le soir, tu manges. Enfin, tout est. Alors, c'est pas forcément facile, hein. Ils ont des journées minutées, il y a l'école un peu entre deux, mais je pense que tu les déconnectes de la réalité du football, quoi. Enfin, du football de National Ligue 2, quoi, tu vois. Sûr. Et oui, même de certains clubs de Ligue 1.
Mais t'es au courant, mais pour tout dire, c'est tu fais ton entraînement, tu veux te faire masser ou alors tu as reçu un coup, tu te changes, 5 minutes après, t'es dans les mains d'un kiné.
Ouais.
Dans la vie de tous les jours, il faut prendre rendez-vous, t'as le malheur d'arriver en retard, ciao, bonsoir, c'est dans une semaine. Donc c'est ça... C'est vraiment un avantage, un privilège. Donc, c'est juste expliquer aux joueurs. Mais une fois qu'ils le comprennent, ça passe. Mais effectivement, c'est de leur embarre.
Et puis, par rapport au vélo, notamment, où bah là, la conjoncture du truc fait que les mecs, ils sont dispatchés aux quatre coins de la France, aux quatre coins du monde, bah, ils sont obligés de se prendre en main. Ils sont beaucoup plus autonomes, quoi, tu vois. Et beaucoup plus ancré dans la vie, mais dans la vraie vie. Mais bah forcément, toi, t'appelles le correspondant local que tu connais pas trop, donc tout prend un peu plus de temps. C'est difficile. Tu peux pas reconstruire un staff médical à chaque endroit où le mec habite. C'est l'aider à construire ça, d'avoir son médecin traitant, médecin du sport, son kiné, et puis bon, d'avoir ce degré de réactivité là. Mais t'arrives pas au niveau du foot parce qu'il y a pas les mêmes moyens.
Je sais pas si c'est hyper naïf comme question, sûrement d'ailleurs, mais
non, dis pas ça. Dis pas ça.
Est-ce que merci Edouard. Est-ce que c'est possible d'avoir un objectif de blessure? Tu disais tout à l'heure que toi, ton objectif, l'un des trucs sur lesquels tu mesurais la qualité de ton travail, c'est le fait que tu as l'ensemble de l'effectif disponible pour le match. Est-ce que tu as un truc qui peut dire, je sais pas, un DS, ou cette année, je veux maximum tant de blessures, sinon. Ce qui paraît fou, parce que tu dis, tu as tellement d'éléments, etc. Le mec qui joue les matchs, c'est pas toi qui va lui mettre un tacle, tu vois, et lui faire les croisés.
Pareil, moi, sur l'incidence des blessures, donc sur le nombre de blessures qui arrivent, je pense que c'est pas trop là notre partie. Même si elle l'est un peu, je pense qu'on peut en éviter quelques-unes en gérant bien les mecs la semaine. À un moment, un mec qui traîne une douleur, tu communiques bien avec les différents staffs, etc. Donc, tu limites les nouvelles blessures. Je pense que là où nous, on doit plus objectivement être jugé, parce que les nouvelles blessures, les facteurs de risque principaux de nouvelles blessures, c'est une mauvaise gestion de la charge d'entraînement. Donc, c'est pas nous, quoi.
C'est
le prépa, c'est l'entraîneur. Et c'est l'antécédent de blessure lui-même. C'est pas nous qui recrutons les joueurs. Si tu prends un mec qui s'est pété les 2-3 dernières années, c'est objectif, il a statistiquement plus de chances de se blesser qu'un mec qui s'est jamais blessé. Donc là, on est sur deux leviers, et ça, qui sont les principaux leviers, les principaux facteurs de risque de blessure qu'on contrôle pas.
La charge de travail et le trauma, c'est totalement différent, c'est vrai.
Donc et je pense que nous, où là on doit être bon, c'est pour que le mec il se reblesse pas, quoi. Une fois qu'il s'est blessé, c'est le remettre bien. Là, pour le coup, c'est plus logique de nous juger là-dessus, tu vois.
Ou alors tout simplement, les délais de reprise.
Ou les délais de reprise. Bien sûr, exactement. Donc sur ces éléments-là, sur le nombre de blessures par an. C'est difficile de donner des objectifs à nous parce que c'est des éléments qu'on ne contrôle pas. Et puis même là-dessus, sur l'épidémiologie des blessures en elle-même, tu vois. Alors déjà, des données européennes qu'il y a, parce que bon, c'est au bon vouloir de comment les gens font le reporting, etc. Ouais.
Comment ils sont collectés aussi
Moi, à Lens, je faisais tous les ans mon observation interne pour pouvoir se la confronter d'année en année et puis pouvoir aussi la confronter aux publications générales. Et parce que souvent, les données épidémiologiques, ils comptent une blessure quand un joueur manque un entraînement, tu vois. Alors que, tu vois, un joueur, il peut manquer un entraînement pour plein de raisons. Hein. T'as des mecs, où il prend un coup, le lendemain, t'as des joueurs, c'est plus des joueurs de match, un ancien, machin, et voilà, ça fait pas. Si tu comptes tout, et quand je voyais leur nombre de blessures, donc en comptant comme ça, des clubs qui jouent la Champions League et machin, je suis dubitatif sur la rigueur avec laquelle ils
monitorent le truc.
Ils monitorent le truc, tu vois. Donc, Donc, cet objectif d'incidence de blessure, pour nous, médecins, il n'est pas trop... C'est comme quand on entend, l'infirmerie est pleine à tel endroit, le médecin, il est surtout là pour les soigner, tu vois,
c'est pas lui qui les blesse,
après... Par contre, si c'est un mec qui s'est fait quatre fois le même genou, qu'elle fait le même ischio, bon, là, on peut dire, putain, qu'est-ce que t'as foutu, quoi, mais sinon...
Sur l'incidence, ce serait injuste.
Ouais, sans vouloir débiner, mais je pense que c'est pas le... Ouais.
Vous êtes plusieurs, en fin de compte. C'est pour ça que la question de départ, c'est la part du médical. Il y en a beaucoup qui diraient, je sais pas moi, 100%, 50%, mais en fin de compte, il n'y a pas que vous. Dans l'astuce de performance, il y a le psychologue, il y a aussi le prépa athlétique. C'est un vrai travail d'équipe. Uh-huh. C'est un vrai travail d'équipe.
C'est ça justement ce que dit Edouard, ça nous amène à la remédiation, en tout cas là où on voudrait avoir ton avis sur en gros ce qu'il faut faire pour avoir le setup idéal en termes de cellule médicale. C'est selon toi une cellule médicale qui est bien organisée dans un club, le format optimal c'est quoi? Tu vois, comment toi tu l'organiserais si demain on dit tiens, ça c'est les clés du.
Les clés du camion.
Luis Campos qui t'appelle parce qu'ils sont en train de réorganiser un petit peu tout ça.
J'espère que t'as pas coupé ton téléphone.
Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Est-ce que tu t'intègres dans une cellule de performance ou tu te mets
à carte blanche,
comment tu.
Moi je pense qu'il faut être intégré à une cellule de performance. Okay. Moi je pense que le dialogue il se fait entre le médecin, entre le responsable de la perf et le responsable de la perf. Discute avec le staff technique. Alors, ça n'empêche que le médecin, de temps en temps, il doit aller avec le coach.
Responsable de la perf, quand tu as dit, c'est le prépa athlétique,
mais
doc, et après au-dessus, tu as ton directeur de perf.
Oui, c'est ça. Mais je pense que le doc, il converse avec le directeur de perf, tu vois. Classiquement, le matin, tu fais un petit débrief avant et après l'entraînement. Et après, le coach a besoin de faire son groupe d'entraînement. Donc, tu fais un peu le débrief des trucs de la veille. T'as revu les mecs s'il faut le matin. Tac, ça transit jusqu'au coach. Mais pas forcément directement par nous en tant que médecin. Je pense qu'il faut, du médical et il en faut pas trop non plus. Enfin, moi, des fois, le sentiment, on parlait de à quel niveau situe le foot, des fois j'ai l'impression qu'on médicalise trop en fait. Moi je demande jamais à un mec ça va, parce que sinon, j'ai un petit truc là. Alors, tu commences
dans le sport de niveau, t'as raison.
Mais oui, on va dire,
j'ai jamais commencé un match en étant 100%
tranquille. Bien sûr, on va aller, ça va pas, viens, je vais t'examiner. Puis tout le monde va commencer à flipper, on va faire une écho, puis une IRM, puis on va voir des trucs. Alors que tu dis, le mec qui joue dans le petit club, je lui dis rien à personne. Et puis pour beaucoup de fois, ça va. Souvent, je dis aux entraîneurs, si t'es médecin généraliste, que t'as 1000 patients, si tu vas frapper à la porte de chacun des 1000 patients tous les jours, c'est pas 30 consultations que tu vas faire, c'est 500. Ouais. Parce que les gens, t'as la petite plainte qui ne mérite pas un avis médical et qu'il faut laisser couler. Donc je mettrais du médical et pas trop. Je pense qu'il faut être deux médecins. C'est important, on disait, de médecins qui s'entendent bien. Si tu mets deux mecs qui disent...
Avec des approches différentes, des caractères différents.
Ouais, mais en tout cas, c'est complémentaire, mais en tout cas, c'est intelligent pour qu'à un moment, t'aies une décision unanime. Si tu commences à partir sur deux trucs, là, tu laisses une faille joueurs s'engouffrent dans la brèche, et là, c'est terminé, là, c'est le bordel. C'est dans ces cas-là que c'est le bordel. Ouais. Ça devient le bordel là, médiatique et machin. Si à un moment, tout le monde expertise le truc et bim, c'est ça le délai, on va faire comme ci, comme ça... Souvent, il n'y a pas trop de problèmes, que ce soit Neymar ou un joueur de n'importe quel club de National ou Ligue 2. Hein. Je pense, je ne connais pas Neymar, mais. Et après, je pense deux médecins. Je pense que souvent, les clubs tournent à 3 kinés minimum, un club de Ligue 1, entre 3 et 5. En tout cas, il faut être 2 kinés à l'extérieur minimum. Et puis après, tu as 2, pour moi, dans le foot, mais ça vaut pour tous les métiers. Notamment dans le médical, soit tu es sur deux courants, soit tu es sur la théorie du presse citron, tu prends un médecin, des kinés, et puis tu vas les essorer pendant 3-4 ans en les faisant turbiner, fond la caisse, et puis tu sais que ce sera un cycle qui va pas durer très longtemps, sauf cas exceptionnel, soit tu aménages un truc qui est à peu près stable et tu essaies d'avoir une équipe un peu pérenne et qui fait qu'elle pourra construire des choses et que au changement de coach ou au changement de machin, tu repars, ou changement de doc, tu repars pas de zéro à chaque fois, parce ouais. que c'est souvent un peu ce qui se passe à tous les niveaux avec les staff techniques, machin.
Juste, je te coupe des noms parce qu'il y a un truc hyper intéressant que tu dis, c'est la théorie du presse citron. Ça veut dire que c'est quoi qui est dangereux? C'est par exemple que le doc soit là tout le temps, typiquement il fait les mises au vert, il est là avant, pendant, ouais. après les matchs.
Moi, ma première année à Lens, Antoine Comboiré, l'année d'avant, enfin bref, il voulait. Un seul médecin, un seul interlocuteur. Il ne voulait parler qu'à moi.
D'accord.
Donc, c'est moi qui faisais tous les matchs, tous les. En plus, c'était une année où, dans Ligue 1, on jouait à Amiens. Donc, tu tapais mise au vert à chaque fois. Enfin, c'est comme si tu jouais tous les matchs
mais toi,
à l'extérieur.
T'étais sur la mise au vert.
Ah ouais, tu me fais des misères. Ouais.
Donc, tu te déplaces. Mais t'es malade ou quoi ça, ouais. ça,
Mais quelle est la. Tu vois, une fois. C'est pas hyper naïf, mais tu vois, une fois que t'as fait ton travail de médecin sur la semaine, t'as un groupe qui est disponible pour le match. T'as plus, la plus-value du médecin sur la mise au vert.
Le vendredi soir, le match est le samedi. Le vendredi, il y a un joueur qui a pas bien dormi, il a mal au ventre, il a ceci, cela, il appelle qui
tu Non, mais c'est, ta question est juste, c'est hyper discutable, hein,
mais
la question Mathieu.
Mais t'as tout à fait raison, mais moi j'ai toujours été habitué, j'avais mon
t'avais doc.
Le doc, il y avait les kinés et tout ça.
Ah ouais, souvent,
Quand t'arrivais pas à dormir, allez le doc, viens, on joue aux cartes.
Et... Non, c'est pas ça, mais on sait jamais. Si jamais Edouard, il a pas bien dormi la nuit, il a la diarrhée, qu'est-ce qu'on va faire? T'es 2h du matin, allô, Louis? Ouais.
Ah non, mais tu vois, naïvement, moi je pensais que. En gros, tu livres ton groupe. Et puis après, sur
ça
le match, tu
ça.
Sois là.
Ça vois, pourrait, ça
sur
pourrait
le match,
être ça.
Tu comprends, sur mais, le match, t'as...
Ça pourrait être ça.
Mais moi, je pense qu'on est sur une surenchère médicale. Hein. Moi, je serais plutôt dans ta tendance à dire t'es dispo, t'es d'astreinte, tu m'appelles jour et nuit. Il y a une mallette avec un peu de médoc au cas où, si t'as mal au ventre, machin truc, tu vois.
Mais par contre, moi, ça, ce que tu viens de dire, là, la petite mallette et tout ça, franchement, je trouverais. J'ai jamais été habitué à ça. Je trouverais ça folklorique, t'imagines. Il n'y a pas le doc.
Il faut que ce soit sécurisé.
Ça m'est arrivé une ou deux fois sur deux clubs, je ne citerai pas de nom, c'est Auxerre. Et en fin de compte. Non, mais parce que c'est un côté un peu authentique, tu vois, un peu amateur, qui fait son charme. Et je dis, mais il n'y a pas le doc. Non, le doc, il n'est pas là. Je dis, mais j'ai mal, tu vois, mal à dormir ou je ne sais pas quoi. Mais tiens, et là, tu vois, c'est le kiné qui m'a une petite trousse, comme c'est une petite trousse à pharmacie. Tiens, non, moi, je dis, t'es kiné, toi. C'est toi qui m'as. Un doc. Il est où le doc? Le doc, il est chez lui. Oh non.
Je vois pas,
j'étais mal habitué, tu vois.
À 2h du matin, lire la posologie.
Mais c'est pas
forcément mal habitué, t'étais habitué.
Mais le gars,
c'est le doc. Je me rappelle, c'est le kiné. Qui coupe ça avec tu vois, le ciseau de kiné où tu fais les straps. J'ai dit non, je veux pas ça. Non, il est où le doc? Je vais l'appeler au doc, ouais. Donc je vais décrire les symptômes. Donc voilà, mais c'est assez drôle. Mais autant je peux comprendre sur les matchs à l'extérieur, pourquoi pas. Mais c'est vrai que les matchs à domicile, je peux comprendre. C'est compliqué pour les docs. Ouais, non, nos docs, ils étaient full time, mais full time avec un grand F.
Mais d'où l'avantage d'avoir utilisé deux docs, c'est-à-dire que tu peux aussi partager cette charge-là et de dire bah sur ces matchs-là c'est toi, sur d'autres. Et donc pardon, parce que du coup je t'ai coupé sur la composition de ta cellule idéale.
Deux docs, quatre kinés, un ostéo qui passe deux trois fois la semaine et podo, pédicure, enfin du classique, ouais, quoi, qui passe, voilà. Après, je pense que l'aspect nutrition, il est important. Je vois là, tu vois, là, au LOSC, depuis 4-5 ans maintenant, il y a un nutritionniste en plein. C'est devenu un truc, je pense, dont le club pourra difficilement
se passer.
Tu vois, les joueurs, ils arrivent, ils prennent le petit-déj, la petite routine d'avant-entraînement, ils font les soins après l'entraînement. Le rôle du nutritionniste, il est de faire un peu de nutrition et pas mal de logistique, c'est de préparer toutes les boissons de récup comme il faut pour le joueur, avec le goût qu'il aime.
Ouais,
machin,
c'est ça, nutritionniste, ça, c'est...
Voilà. Ça fait partie. mais comme elle est un peu le rôle du médecin,
tu fais un peu
la maman par moment, tu vois, ça fait partie un peu du truc. Et si tu veux pas faire ça, faut pas se faire ce métier-là, ouais. Quoi, tu vois.
On est clanique aussi, les joueurs. C'est un vestiaire, c'est clanique, donc il faut que ton doc, si ton doc n'est pas là, on va à la guerre, il faut le doc.
On
est clanique.
Complètement.
Et je peux comprendre que ce soit parfois pas évident pour vous, parce que c'est vrai que...
Il faut trouver être suffisamment pour pas que ça t'essore, je pense, et puis pas être trop pour que, effectivement, cet aspect un peu clanique, comme tu dis, il perdure, quoi. Et que les mecs, ils ont leur repère, et c'est pas... c'est le doc, tu vois, c'est pas du tout irrespectueux, c'est que c'est comme ça, c'est le côté sympa du truc, quoi. Mais donc je pense que nutritionniste, c'est important. Je pense que l'aspect psycho, enfin toute cette notion là dont on a parlé depuis le début, pas forcément quelqu'un au quotidien, mais que t'as quelqu'un d'identifié, un référent. Et pour moi, sur des domaines, la psycho, la nutrition, où nous, des fois, où il y a quelques années dans les clubs, bam, tout ça passait par le doc, mais clairement, on n'est pas hyper armé, quoi. On n'est pas les plus compétents. Et puis, il y a besoin d'un moment que ce soit des personnes un peu identifiées. Donc, si tu as les moyens de le faire, il faut le faire.
Très clair.
Je pense que c'était clair, net et précis.
Ah, écoute, on a beaucoup appris en tout cas aujourd'hui.
Comme très souvent. Mais aujourd'hui, au niveau du médical, franchement, c'est pas mal. Donc, n'appelle pas Louis ce soir si jamais il y a...
non, si jamais
un petit popo trop liquide, non, tu vois ce que
pas,
je veux dire.
Pas de problème. Mais moi, j'ai pas eu la chance d'être joueur professionnel. Donc, l'automédication va très bien, monsieur Cissé.
Ah ouais, ouais, ça aussi. Mais ça, moi, c'est
je lis la posologie, je tape sur internet comme il faut pas faire, et puis après, je prends en fonction des avis sur Doctolib ou sur Doctissimo. Louis, merci beaucoup.
Merci à vous.
On a effectivement appris beaucoup de choses. Et
tu reviens quand tu veux.
Ouais.
Avec plaisir.
Pas trop souvent, parce que sinon on va te solliciter trop longtemps.
Je viens avec des ordos.
On est très clanique, nous aussi. Donc, à partir du moment où tu rentres dans l'alternative football, tu n'en ressors plus. Non, merci beaucoup. C'était un plaisir. On a appris beaucoup de choses. Petit message de service habituel. Si vous aimez toujours alternative football, n'hésitez pas à liker, commenter et à nous suggérer potentiellement le nom d'invité que vous aimeriez avoir autour de la table.
Ou des sujets.
Ou des sujets, parce que les invités,
on a.
On a une longue.
Mais par contre, les thèmes, c'est vrai que c'est de temps en temps, ça peut être pas mal. Peut-être qu'il y a des sujets qu'on a pas, auxquels on n'a pas réfléchi.
C'est très vrai. Merci, monsieur Cissé.
Merci, Matt.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.